Et mon message ce matin sera sur le thème « Surmonter et transformer ses déceptions ». Il y a tant de raisons d'être déçu dans ce monde que si l'on n'apprend pas à gérer ses déceptions, on va se retrouver à un moment donné à crouler sous leur poids. On peut dire que chaque déception, vous savez, c'est comme une flèche qui nous est assénée. Une flèche de déception, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'a pas tourné comme on voulait ou comme on pensait que ça devait tourner. Est-ce qu'il y a des spécialistes ici? Une flèche de déception. D'ailleurs, il y a un verset dans les Proverbes, au chapitre 13, verset 12, qui nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Donc ce n'est pas une déception qui va nous briser, mais l'accumulation de plusieurs déceptions. Vous connaissez ces situations? Quand vous avez fini avec un problème, vous commencez avec un autre. Et ça n'en finit plus. Si bien que l'accumulation vous fait craquer à un moment donné, et vous perdez de vue tout espoir en un futur glorieux. Spécialement lorsqu'on passe par une période où l'on est déçu par une chose après une autre, notre espoir s'envole en fumée. Et si l'on note pas régulièrement ces flèches de notre corps, on se retrouve un jour couvert de blessures qui peuvent nous ôter du chemin de notre destinée. Parce que voilà, ce qui est important à réaliser, c'est que Dieu a pour chacun de nous une destinée. Avant même que nous soyons nés, lorsque nous étions encore dans le ventre de notre mère, Dieu avait prévu que nous occupions dans ce monde une place particulière. Amen. Certaines personnes sont appelées à chanter, d'autres personnes sont appelées à prêcher, d'autres personnes sont appelées à faire quelque chose dans le monde du travail, sous une forme ou sous une autre. Ce qui est important, c'est pas juste de faire quelque chose dans ce monde, c'est de trouver la place que Dieu nous a destinée de toute éternité. Et avec mon épouse, c'est ce que nous désirons chaque jour, comprendre quels sont les jours que Dieu nous a destinés dans son plan. Et au lieu de prier pour que Dieu bénisse nos plans, nous prions de plus en plus pour que Dieu nous fasse comprendre ses plans, pour que nous, nous rentrions dans ses plans, parce que ses plans, ils sont déjà bénis. Il y a une forme de déception qui nous touche particulièrement. C'est lorsque les choses qui étaient le plan idéal pour notre vie, ou pour ceux qui croient, on dit le plan de Dieu, eh bien, ne marche pas néanmoins. Il y a alors une confusion profonde qui vient se greffer sur notre déception. Et cette confusion, elle est agrémentée par un ensemble de questions bien compréhensibles qui émergent alors. Pourquoi ça a foiré? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il a permis ça? Si c'était le plan de Dieu, pourquoi ça a tourné comme ça? Enfin, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions, mais moi oui. Vous êtes peut-être plus spirituel que moi, dans ce cas vous prierez pour moi tout à l'heure. Mais je suis passé par certaines périodes de confusion. Mais je sais que Dieu est là pour briser la confusion dans notre vie. Et on se pose encore les questions suivantes. Tout est-il fichu maintenant? Si le plan idéal, le plan de Dieu a foiré, est-ce que tout est fichu maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ou qu'est-ce qu'il me reste tout court? Dans ces instants, des pensées qui ont pour but de nous ôter toutefois une espérance et un avenir glorieux nous accablent. Le plan idéal pour ta vie a foiré, il ne reste plus rien, tu as gâché ta chance. C'est vrai, qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsque la personne avec qui l'on pensait faire sa vie est partie dans la direction opposée à ce qui était prévu et nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsqu'on a déménagé peut-être pour entrer dans un plan idéal et dans le plan de Dieu et qu'au lieu de voir ce plan s'accomplir, tout se casse la figure comme des amis de ma connaissance? Qu'est-ce qu'il reste à faire quand notre famille peut-être a explosé, alors même qu'on était chrétien et même peut-être qu'on servait Dieu? On pensait qu'étant chrétien, ce genre d'option n'interviendrait jamais. Et voilà qu'un des conjoints a fait n'importe quoi et les conséquences ont été désastreuses. Et à travers nos voyages, mon épouse et moi-même, nous voyons beaucoup de ces situations qui n'ont pas tourné comme ça devait tourner au départ. Qu'est-ce qu'il reste à faire quand la guérison attendue n'est pas survenue? Qu'est-ce qu'il reste à faire lorsque c'est la mort d'un proche, un mari, un enfant qui arrive, alors qu'on attendait Dieu agir peut-être, ou la Providence agir en notre faveur? Qu'est-ce qu'il reste à faire lorsqu'on a mis en place de quoi faire prospérer une œuvre, un travail, et qu'on se retrouve au contraire couvert de dettes? Lorsque l'équipe peut-être sur laquelle on avait fondé toute une vision explose. Et dans nombre de ces situations, on se retrouve momentanément comme assommé, vous savez, sans la force de faire grand-chose, tellement l'accumulation de nos déceptions nous fait l'effet d'un coup de masse. Qui a déjà pris un coup de masse ici? Je vois qu'il y a des spécialistes. Certains en ont pris plusieurs, hein? Oui, qu'est-ce qu'il reste à faire lorsque ce qui paraissait être le plan divin, permettez-moi l'expression, a foiré? Doit-on se rabattre dans un plan médiocre pour le restant de sa vie? Il va falloir sortir du découragement, sortir de la souffrance, et pour cela il faut d'abord sortir de la confusion. Et pour sortir de la confusion, il nous faut une réponse biblique aux questions qui se posent dans notre esprit. Parce qu'une réponse humaine ne peut satisfaire une si grande souffrance qui est causée par le fait de voir sa destinée partir en fumée. Si c'était le plan de Dieu, pourquoi ça a foiré? Quelque chose qui est le plan de Dieu peut-il foirer? Beaucoup pensent que si quelque chose foire, cela est la preuve que ce n'était pas le plan de Dieu, ce qui est tout à fait faux. Il est vrai que quelque chose peut foirer parce que ce n'est pas le plan de Dieu et que Dieu ne le bénit pas, mais penser qu'une chose qui est dans le plan de Dieu réussit naturellement et obligatoirement, c'est de l'inconscience. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes dans un monde où ce n'est pas Dieu qui règne, comme l'imaginent beaucoup de personnes, c'est le diable. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Et nous, comme nous le disions vendredi soir, qui croyons en Dieu, nous sommes les envahisseurs. Nous sommes supposés changer le cours des choses dans nos propres vies et sur notre passage. Maintenant, nous ne réussissons pas tout de suite et nous avons des échecs. Mais nous avons la puissance par le Seigneur de pouvoir surmonter ces échecs pour un jour parvenir à toutes nos victoires. Une chose peut être parfaitement dans le plan de Dieu pour votre vie, pour ma vie, et échouer. Bien sûr que la question se pose alors, pourquoi? Bon, avant tout parce que lorsque vous voulez accomplir le plan de Dieu, l'ennemi se lève pour vous évincer de la course. Il y a une puissance dans ce monde qui veut nous tenir humiliés, liés, incapables de prospérer et de se diriger dans un avenir glorieux. La malédiction est un processus naturel dans ce monde. Vous savez, vous avez une seule chose à faire pour que les problèmes arrivent, c'est vous lever le matin. Pas besoin de prier pour ça, ils arrivent tout seuls. Par contre, vous devez vous battre pour faire venir la bénédiction dans votre vie et pour la garder. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et donc, nous avons pas besoin de devenir des chrétiens mous, comme on a souvent cette image, sans caractère. Nous devons devenir des violents. Amen. Donc si vous êtes venu pour écouter de la religion ce matin et des discours de chrétiens mous, c'est pas l'endroit. Jésus avait du caractère, c'était un homme de caractère et la Bible nous demande d'apprendre à marcher sur ses traces et à voir le caractère qu'il avait. Alléluia. C'est sûr, la nouvelle question est soulevée, pourquoi est-ce que tout ça est arrivé? Certainement parce que le diable trouve des failles, des prises qui lui permettent de passer au-delà des limites qui lui sont au départ assignées. Cette faille peut être le fait qu'on passe à côté des directives du Saint-Esprit, tout simplement, pas parce qu'on a commis un péché bizarre. Toujours des gens qui aiment bien culpabiliser les autres, jusqu'à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes dans la même situation. Alors là, c'est fou combien ils sont remplis de compassion. Il y a aussi un combat spirituel. S'il y a combat, c'est que la victoire n'arrive pas automatiquement. Elle se saisit dans la persévérance. Enfin, tout cela pour dire que oui, une chose qui est juste, qui est le plan de Dieu, peut malgré tout foiré. D'ailleurs, que tous les plans de Dieu aient toujours réussi du premier coup à quelqu'un, ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas cela pour dire qu'on ne doit pas tout faire pour permettre au plan de Dieu de s'accomplir, mais pour nous aider à relativiser ce matin. Vous me direz, si c'est une chose qui n'est pas si importante, c'est facile de relativiser. Mais lorsqu'il s'agit de l'explosion d'une famille, par exemple, d'un grand rêve, l'explosion d'une église, c'est autre chose, bien sûr. Des plans de Dieu avortés ayant des conséquences très graves se trouvent dans la Bible et dans la vie de certains des caractères les plus importants. D'ailleurs, ça a démarré tôt, dès le début. Il y a une méga histoire d'échec et de déception aux conséquences très graves, qui est tellement grosse d'ailleurs qu'on risque de passer à côté. C'est la première et la plus grosse déception de Dieu lui-même. Le plan de Dieu pour l'humanité a foiré dès son début. Est-ce qu'on a bien réalisé cela? C'est tellement gros qu'à un moment donné, on risque de passer à côté. Si quelqu'un a ressenti qu'il était dans le plan de Dieu et que malgré tout ce plan basculait, c'est bien Dieu. Pas de doute, Dieu était dans le plan de Dieu. en créant et en plaçant l'homme et la femme en Éden. Vous ne pensez pas? Il faut bien comprendre que Dieu n'a pas mis l'homme sur terre pour qu'il pêche. Sinon, Dieu serait bien vicieux. Pour qu'il s'éloigne de lui. Pour qu'il laisse entrer Satan et son cortège de malédiction, de maladie, de pauvreté, de haine, de tuerie, d'abus divers dans le monde. La Bible nous dit que le diable est le destructeur, mais Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et moi, je suis quelqu'un d'entier. Si Dieu dit qu'il veut que j'ai la vie en abondance, j'ai pas l'intention de me contenter de la vie tout court. Et le fait que Dieu puisse savoir à l'avance toute chose ne veut pas dire que toute chose qui arrive est selon son plan. Et c'est pourquoi il nous demande de prier le Père que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Parce que justement, ce qui se passe autour de nous, 80% des choses que nous voyons, c'est tout sauf la volonté de Dieu. C'est tout sauf la volonté d'un Dieu juste et bon. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, prêchez la bonne nouvelle. Nous ne voulons pas des chrétiens qui prêchent toujours une mauvaise nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Guérissez les malades. Redonnez espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Une espérance à ceux qui n'ont plus d'espérance. Donc, on peut bien dire là que le plan de Dieu avait périclité. Et les conséquences ont été catastrophiques. La mort spirituelle et physique pour l'homme, qui était destiné au départ à ne jamais mourir. La destruction, la malédiction sur cette terre, dont le processus de malédiction naturelle que nous rencontrons tous les matins en nous levant. Plus dramatique, tu meurs. Cela doit donc déjà aider toute personne confrontée à un sentiment d'échec terrible ce matin. Toute personne qui a cette impression que sa situation et ses conséquences sont trop graves pour les surmonter, à relativiser, à relever la tête. L'évangile, c'est un message pour aider les gens à relever la tête. Moi, je n'écoute plus les gens qui, au nom de l'évangile, nous font toujours baisser la tête. Et cet exemple que je viens de donner est aussi la démonstration irréfutable que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas toujours obligatoirement. Maintenant, le deuxième enseignement que nous pouvons tirer, plus riche ce matin, est que Dieu peut retourner n'importe quelle situation. Par retourner une situation, nous ne voulons pas dire juste l'arranger, la réparer, limiter les dégâts. Non, il peut nous propulser par le biais même de l'erreur, par le biais même du problème, de la déception, dans quelque chose d'encore mieux que ce que nous avons raté ou perdu. Et c'est comme ça que je conçois Dieu. Là aussi, si c'est difficile à croire face à la déception et souffrance peut-être actuelle, qui peut être la vôtre, c'est ce que nous enseigne l'Écriture. Et le plan divin même de salut en Jésus-Christ. C'est la conséquence de la mise en route d'une loi, ce plan de salut, d'une loi encore plus grande que la loi de la réussite. Il y a une loi encore plus grande que la loi de la réussite, c'est la loi de la grâce. Et Dieu prend plaisir à relever celui qui est abattu. Face au dérapage d'Adam et Ève, Dieu a libéré notre plan, un plan de rachat en Jésus-Christ, qui devait amener l'humanité dans une dimension supérieure à celle perdue dans la chute, parce que la Bible nous dit que nous avons été recréés en Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons comme sauveur, nous naissons de nouveau, nous sommes recréés en Jésus-Christ, pas en Adam, dont nous avons une place encore supérieure à celle qu'a perdu Adam. Donc Dieu, il a fait mieux. Il a utilisé le problème, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. La Bible dit, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Dieu ne sauve pas juste les meubles. Il transporte, si on le laisse faire, dans une dimension, une bénédiction supérieure. Et s'il l'a fait pour ce drame qu'est la chute, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi, face à ta détresse, d'avoir tout perdu? Si Dieu a rattrapé le plan de la création par le plan du salut, il peut te permettre de rattraper tes plans qui ont été détruits. Si Dieu est confronté à la réalité des échecs cuisants des hommes, et de leurs conséquences, il a aussi, par son omniscience, c'est-à-dire sa faculté de tout savoir à l'avance, préparé justement à l'avance une solution pour chaque échec qui interviendrait. Et c'est ce qui me fait bondir ce matin. Ça me rend joyeux. L'Écriture nous dit qu'en fait, faisant allusion à Jésus, que l'agneau de Dieu, c'est-à-dire la solution, a été préparé avant même la fondation du monde. Wouh! Vous pouvez pousser un petit cri là? De joie, certains. Voilà. Là, ils sont dangereux, là. Dans 1 Pierre 1:20, dans l'Écriture, il nous est dit que Jésus était un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus a été manifesté en son temps, mais il a été préparé depuis bien longtemps, avant la fondation du monde. C'est un principe. Dans son omniscience, Dieu a préparé des solutions avant même que les problèmes arrivent. Voyez-vous, lorsqu'une personne est confrontée au non-accomplissement du plan divin ou de ce qu'elle pensait être le plan idéal pour elle, même si elle ne l'appelle pas le plan divin, elle a tendance à penser qu'il n'y a donc aucun autre plan ou pas de plan aussi bon en remplacement et encore moins un plan meilleur. C'est compter sans l'omniscience de Dieu, sans le fait qu'il a déjà prévu un plan meilleur à celui qui a échoué. Quelqu'un qui a été profondément amoureux pensera qu'il ne peut retrouver une telle âme sœur. Quelqu'un qui est couvert de dettes, qui ne pourra plus jamais prospérer. Quelqu'un qui a vu peut-être sa famille exploser, que les temps à venir ne seront que souffrance et tristesse. Mais le Seigneur, sachant que cet homme, cette femme, par exemple, qu'il te destinait, dévirait à un moment donné, a prévu quelqu'un de bien mieux que tu pourras aimer bien plus et de qui tu seras aimé bien plus. Parce que Dieu a toujours un avenir, une espérance pour nous. Je déteste écouter des prédicateurs qui coincent les gens à vie dans leurs problèmes. Il y a un avenir, une espérance. Quelles qu'aient été nos chutes, quelles qu'aient été nos péchés, parce que le sang précieux de Jésus-Christ a coulé dans ce but. Sachant peut-être que tes collaborateurs te laisseraient tomber, eh bien il en a prévu de meilleur. On sort de la confusion, de son découragement, de l'inertie que produit la déception, lorsque l'on considère qu'il y a une solution devant nous, préparée avant même que ne soit arrivée la cause de ces choses. Dieu utilise le problème même comme un tremplin. C'est ça le plus fort, c'est que Dieu va utiliser la cause même de ta souffrance et de ta déception pour t'aider et te bénir. C'est-à-dire que la chose même qui devait te stopper devient l'occasion de rebondir vers mieux. Exemple, ton échec va t'enseigner pour pouvoir réussir des choses que tu ne peux réussir sans avoir un tel enseignement, une telle expérience que t'a apporté l'échec. Le capitaine du Titanic, il avait trop d'assurance en lui-même, il n'avait jamais eu d'échec. Donc quand on lui a téléphoné pour lui dire qu'il fallait faire attention aux icebergs, il a dit, il s'est assuré, il s'est appuyé sur son assurance. Quand on a trop d'assurance, on va à la catastrophe. Alors on ne doit pas rechercher les échecs, mais si nous savons gérer les échecs, tirer enseignement des échecs, ils vont nous aider à nous propulser dans un futur glorieux. Quelle onction ce matin! Il y a des anges dans ce lieu, les amis. Cette blessure que tu as reçue, elle va te remplir de tellement de compassion pour ceux qui sont blessés de la même façon que tu vas pouvoir être efficace comme personne dans ce domaine particulier. Ainsi s'accomplit ce passage de l'Écriture dans Romains 8, 23. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Dieu transforme les situations. Lorsque nous étions à Jérusalem, ma femme a acheté un blue jean avec un trou dedans. Maintenant, on vend le blue jean avec le trou. À une époque, si tu avais des trous, on les réparait. Aujourd'hui, c'est ce qui fait monter le prix des blue jeans. Donc Dieu peut transformer les situations. Alors moi, je voulais acheter que le trou pour que ça revienne moins cher. En fait, il y a une loi supérieure à la loi de la mort. C'est celle de la vie. C'est-à-dire que la vie peut sortir de la mort même. C'est le principe de la résurrection. Est-ce que vous êtes prêts pour une résurrection? La réussite peut sortir de l'échec. Le bonheur du malheur, la joie de la tristesse, l'espérance de la détresse. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je sais que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il y a environ 35 ans, je n'avais plus aucune raison de vouloir vivre. Je pensais régulièrement mettre fin à mes jours. Aujourd'hui, j'ai toutes les raisons de vouloir vivre. Dieu a transformé mon cœur, il a transformé mon avenir. Alléluia. C'est pourquoi je me permets de parler ainsi ce matin. En 1 Corinthiens 10, 13, il est encore dit, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce qui peut empêcher Dieu d'agir est que nous ne placions pas notre foi dans cette réalité biblique. Et fort de cette connaissance, si nous refusons de sortir de notre chagrin et de notre déception. Mais dans l'épreuve même, ce que nous dit ce verset, c'est que Dieu il a déjà préparé la solution pour en sortir. Mais lorsque nous sommes dans la confusion, nous ne pouvons pas voir dans l'épreuve la solution qui a déjà été placée là à l'avance pour que nous puissions en sortir. C'est pourquoi la première chose, c'est de sortir de la confusion. Laisser retomber tous ces éclats qui sont dans l'air. Nous avons dans l'Écriture l'exemple de nombreux hommes, certains qualifiés de patriarches, qui ont vu ou qui ont eux-mêmes fait, permettez-moi l'expression ce matin, foirer des plans de Dieu, avant de se retrouver dans un plan bien supérieur. Les gens imaginent parfois que leur situation est trop spéciale, trop dramatique, pour qu'elle puisse être changée. Que les personnages bibliques avec qui Dieu a travaillé dans le passé étaient des êtres exceptionnels, qui n'avaient pas tous ces problèmes que l'on peut avoir. Or, pour reprendre l'expression de Jacques au sujet d'Élie, le prophète, ils étaient des hommes de la même nature que nous, confrontés aux mêmes faiblesses, aux mêmes pièges. Jacob, il sert 7 ans pour la femme qu'il aime. Le jour de son mariage, on lui en donne une autre. Vous parlez d'une situation bizarre? Il doit resservir 7 autres années pour avoir enfin cette femme. 7 ans pour rien, semblerait-il, au premier abord. Et tout cela n'a pas empêché Dieu d'en faire le père d'Israël. Et les 12 tribus sont même le fruit de ces faux pas de jeunesse, car Dieu a rattrapé le plan. Joseph, il a vu plusieurs des plans mis en place par Dieu pour sa vie, se casser la figure. La première fois, lorsqu'il est vendu par ses frères, au lieu de voir s'accomplir la vision qu'il venait de recevoir sur sa gloire future. Parfois, on a une merveilleuse vision dans son cœur, on imagine qu'elle va démarrer dès qu'on sort de la pièce, et c'est tout le contraire qui commence. Ensuite, lorsqu'il sort de prison, il devient le gérant de Potiphar, pour mieux retourner en prison accusé faussement. Il y a de quoi dire, qu'est-ce qui se passe là-haut? On me donne pour mieux me reprendre. Il y a un ange qui a appuyé sur le mauvais bouton. Beaucoup de gens imaginent que tout cela était voulu de Dieu, parce que ça a fini par tourner au bon et que le Seigneur utilise tout. Croyez-moi, moi je ne pense pas que c'est dans le plan parfait de Dieu que des frères vendent leurs petits frères. Hein. Je pense que ça c'est dans le plan parfait du diable plutôt. Et je sais que Dieu utilise toutes choses, y compris les plans du diable, si nous savons gérer nos échecs et savons relever la tête. Dieu fait rebondir Joseph à partir de chaque épreuve. Et à force de rebondir, vous savez, quand vous rebondissez toujours plus haut. D'ailleurs, je vais m'arrêter, sinon je vais toucher le plafond. Et à force de rebondir, Joseph arrive au plus haut rang en Égypte. Et il sauve tout un peuple. Dieu veut te faire rebondir à partir d'où tu te trouves aujourd'hui. En utilisant le fait même que le diable t'a stoppé dans ta course, ou t'a frappé, t'a blessé, t'a humilié. Alors cet enseignement, ce matin, il n'est pas là pour nier qu'il n'y a pas un temps pour crier, pleurer, faire un deuil, même comme l'a fait Joseph. Et combien c'est normal, il y a un temps pour cela. Et puis il y a un temps pour relever la tête. Nous voulons comprendre que Dieu veut redonner la foi dans le fait que le meilleur peut encore se trouver devant, si nous relevons la tête. D'ailleurs, ce qui a permis à Joseph de rebondir et dont Dieu à Dieu d'accomplir son plan, c'est aussi que Joseph n'a pas accepté de demeurer dans l'apitoiement, de demeurer dans la confusion, de demeurer dans la tristesse, de demeurer dans la rancune et de demeurer dans l'amertume. Ces choses sont des facteurs qui, bibliquement, empêchent une personne de pouvoir se relever et qui empêchent Dieu de l'aider. Et ça vaut le coup de le mentionner ici ce matin. Samson, qui avait reçu une merveilleuse vision, un merveilleux appel, il avait à peu près la même coupe de cheveux que moi, il paraît, une merveilleuse onction sur sa vie. Cet homme représente pour moi le caractère biblique le plus expert en foirage de plans divins. À force de jouer avec le feu et de faire de mauvais choix sur mauvais choix, il a fini dans l'opposé de sa destinée. Mais même là, dans ce cas extrême, lorsqu'il a crié à Dieu, le Seigneur lui a permis de terminer sa vie en détruisant plus d'ennemis, nous dit l'Écriture, qu'il n'en avait tué au cours de son existence. Et on peut dire que c'est l'humiliation même par laquelle les Philistins ont décidé de le faire passer qui a été le support pour leur propre destruction. Puisqu'il lui avait crevé les yeux, il l'avait attaché au pilier du temple. C'est ce que les Philistins ont utilisé pour l'humilier qui a été l'instrument de sa victoire. Ce que le diable a utilisé pour t'humilier peut devenir l'instrument de ta victoire. Alléluia. David, nous allons terminer avec lui, a été un homme qui a recherché depuis le début à être dans le plan de Dieu. Saül a fait basculer ce premier plan en étant jaloux de lui et en cherchant sa perte, alors qu'il aurait dû devenir son père spirituel. Saül n'était pas obligé de choisir cette option. Et parfois, beaucoup des plans qui périclitent dans nos vies, parfois c'est notre faute, et parfois c'est parce que nous avons tous un libre arbitre, et les gens avec qui nous nous associons ont leur libre arbitre et peuvent faire leur choix. Lorsqu'ils font des mauvais choix, comme nous sommes associés avec eux, eh bien nous en subissons aussi les conséquences. D'homme élevé et respecté, David est devenu un fuyard. On devait lui donner la fille de Saül, c'était le plan de Dieu, et on la donne à quelqu'un d'autre. À la place, on lui donne un coup de pied derrière, on pourrait dire. Mais il a rebondi d'épreuve en épreuve, après avoir même tout perdu. Et il est devenu roi. Et un jour, il a chuté de nouveau, et lorsqu'il a chuté, ce n'était plus la faute d'un autre, comme avec Saül, mais bien la sienne. Mais là aussi, Dieu l'a relevé et lui a fait l'honneur de devenir une image et un père de la lignée du Messie. Quel honneur pour un homme qui a chuté. Dieu aime relever ceux qui chutent. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Contrairement à plusieurs formes de pensée, n'attribuons pas à Dieu tous les plans avortés dans notre vie, et surtout pas les souffrances qui en découlent, parce que Dieu est un Père digne de ce nom. Et c'est un consolateur. Jacques dit en effet que si quelqu'un est confronté à l'épreuve destructrice, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui est derrière. Il est juste de dire que Dieu est derrière dans le sens qu'il a déjà prévu la solution, mais pas qu'il a provoqué toutes ces choses. Nous devons bien faire la différence entre qui est Dieu et qui est le diable. C'est une nuance qui échappe à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes avec qui Dieu avait prévu que nous nous associons font par leurs mauvais choix capoter les plans de Dieu dans leur vie et nos vies. Nos propres erreurs aussi et nos propres mauvais choix en font capoter d'autres. Mais quelles que soient les causes, le point majeur de mon message ce matin est que Dieu a prévu, avant même que tout cela arrive, des solutions. Ces solutions ne sont pas des plans médiocres, ce ne sont pas des plans de rattrapage, ce sont des plans pour nous propulser dans un avenir, une espérance, et pour nous donner mieux que ce que nous avons perdu. C'est comme ça que je conçois le message de l'Évangile, c'est comme ça que je conçois Dieu. Et nous terminons avec ce verset que nous avons chanté tout à l'heure, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, selon les traductions, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et les gens à qui s'adresse Jérémie dans ce verset, les Hébreux de l'époque, ont vu le plan de Dieu pour leur peuple et pour leur vie voler en éclats. Puisqu'ils ont vu leur pays ravagé et ont été déportés à Babylone. Et ce que Dieu leur dit, c'est « j'ai un avenir, une espérance ». Ben, dis donc. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de livres « devenez quelqu'un de positif ». Oui, nous, on a le livre des livres pour devenir positif. Et il faut aussi qu'on apprenne à s'entourer de chrétiens positifs. Exhorter signifie tirer vers le haut. Il y a trop de gens qui nous tirent vers le bas, même dans l'église de Jésus-Christ. Alors moi, je reste dans l'entourage des gens qui me tirent vers le haut. Il y a assez de raisons dans ce monde pour être tiré vers le bas. Et je fréquente juste ce qu'il faut, les gens qui tirent vers le bas. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Ce matin, nous sommes là pour vous tirer vers le haut. Que leur dit le Seigneur aux Hébreux, non pas qu'il n'a plus rien à faire, que les choses sont allées trop loin pour rattraper le plan, mais qu'il a des projets pour eux, un avenir et une espérance. Est-ce qu'on peut se lever peut-être ce matin? Et nous aimerions avoir un moment de prière. Pour permettre à Jésus de confirmer sa parole. Vous savez, nous nous servons de support à travers les chants, à travers un message qui est partagé ce matin, des témoignages, des danses. Nous servons de support pour que Dieu puisse parler au cœur des gens. Mais nous, nous ne pouvons pas directement parler au cœur des gens. Il y a un travail que Dieu seul peut faire. Dieu veut nous rencontrer chacun d'une manière personnelle. Et nous pouvons prendre un temps de prière pour qu'il le fasse. Peut-être qu'on pourrait fermer nos yeux quelques instants et prier. Peut-être que vous n'avez jamais prié, peut-être que vous vous dites « je ne sais pas faire de belles phrases », mais prier c'est parler, vous savez. Alors si vous savez parler, vous savez prier. Dieu ne regarde pas belles phrases, il regarde au cri du cœur. Ce matin, s'il y a des personnes qui veulent laisser parler leur cœur et dire « oh Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me relèves, je désire marcher avec toi. Si tout ce qui a été annoncé, c'est vrai, vous savez, parfois on n'est pas sûr. Pas encore convaincu avec ce qu'on a entendu. C'est normal, c'est logique. Personne n'est là pour faire de pression sur personne. Mais notre prière sincère, Dieu l'entendra et il exaucera, certainement. Il y a environ 35 ans, j'ai fait une prière très simple comme ça. Dans une réunion où beaucoup moins de choses avaient été annoncées et chantées. Et ma prière se résumait un peu à cela. Dieu, si tu existes, et si je ne suis pas en train de parler au mur, révèle-toi à moi. Et à partir de cette prière, s'est mis en place dans ma vie tout un concours de circonstances qui m'ont permis d'entendre et reentendre le vrai évangile. Et un jour, j'ai été convaincu que Jésus était vraiment mon sauveur. Il n'était pas un chemin qui menait à Dieu. Il n'était pas une religion, mais qu'il était un sauveur. Le chemin, la vérité, la vie. Et que j'avais impérativement besoin de lui pour qu'il façonne ma destinée. Père, je prie ce matin et je prie au nom de Jésus-Christ, ton Fils, pour que tu puisses parler au cœur, pour que tu puisses relever, consoler, fortifier, rendre concrète l'Écriture qui dit que tu as pour nous un avenir, une espérance. Il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous restons dans cette attitude de respect, est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent quoi? Ben, qui veulent peut-être juste dire au Seigneur, voilà, je suis là, ne m'oublie pas. J'ai vraiment besoin de toi et je ne peux rien te donner ce matin. Peut-être que ce que je peux faire, c'est un petit acte de foi. Je vais lever ma main à ma place pour te dire, hé Dieu, m'oublie pas, je suis là. Moi, je vais vous voir. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, il va vous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire au Seigneur, viens dans ma vie, transforme, chamboule le cours des choses. Gardez votre main levée. C'est un acte de foi, c'est important. Jésus disait souvent aux gens de faire quelque chose pour se définir. Ce même Jésus qui, lui, a fait quelque chose, il est monté sur la croix pour nous. Humilié devant tous, en public. Il est important ce matin de ne pas avoir honte de lui. On ne veut pas vous prendre au piège non plus. Vous savez, parfois, on fait lever les mains, après on dit aux gens, ceux qui avaient levé la main, maintenant vous vous avancez, après que vous êtes avancé, ça dure une heure, et les gens ont l'impression qu'ils sont tombés dans un piège. J'aime pas du tout ça. Parfois, on voudrait qu'ils récitent une prière pendant une heure, mais lorsque Pierre, il a reconnu son besoin de Jésus dans la barque, ça n'a pas pris une heure, il n'a pas fait la prière classique évangélique de repentance, hein. Et Pierre, Jésus lui a de suite parlé de son avenir, de son espérance. Tu seras pécheur d'hommes. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, on veut de plus en plus décompliquer l'évangile. J'en ai assez d'un évangile compliqué. Ça me fatigue un évangile compliqué. L'évangile est là à la portée de tous. Il est simple. Et le regard de Dieu sur notre cœur va faire que Dieu va réagir aux réactions de notre cœur. Et ce matin, Dieu vous voit. Et je voudrais prier encore. Seigneur, tu vois ces personnes qui ont eu ce courage de lever la main. Oui, il faut du courage. On dit souvent que le christianisme, c'est pour les faibles, vous savez, mais non, c'est pour ceux qui sont courageux. C'est plus facile de suivre le courant de ce monde, de faire comme tout le monde. C'est plus facile d'avoir honte même de croire aujourd'hui, surtout dans notre pays de la France. On a peur de dire qu'on croit, parfois on passe pour l'idiot de service. Eh bien, vous êtes courageux. Et je prie que le Seigneur puisse se manifester d'une manière concrète et confirmer la parole qui a été chantée et annoncée ce matin. Qu'il puisse vous rencontrer dans votre besoin. Je prie qu'il puisse vous faire naître de nouveau, qu'il puisse faire de vous une nouvelle créature, qu'il puisse vous donner la force de faire ce que vous ne pouviez faire hier, qu'il puisse déjà, dès cette semaine, transformer votre vision sur l'avenir, qu'il puisse vous faire marcher sur ce qui, dans votre passé, vous a blessé, sur les échecs de votre passé, pour vous propulser dans la réussite de votre futur. Et pour que chaque fois que vous chutiez, vous puissiez vous relever de suite par sa force toute puissante. Je prie pour vous, pour vos familles, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je prie au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour vous. Si vous aviez été la seule personne qui se soit trouvée sur cette terre, Jésus serait quand même venu mourir pour vous. Parce que Jésus ne sauve pas en masse. Il n'aime pas tous les gens dans un sac. Il sauve chacun de manière personnelle.
C'est pourquoi même notre mari, même notre femme, même nos enfants ne peuvent pas prendre la décision pour nous. Nous sommes seuls devant Dieu ce matin. Et je prononce une bénédiction parce que je crois à la puissance des paroles sur vos vies. Et s'il ne se passe rien, moi je passerai pour l'idiot de service. Alors je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Parce que moi je ne peux pas confirmer ce que j'ai annoncé. Mais Jésus peut le faire. Et Seigneur, je te demande de ne pas me faire passer pour un idiot. Moi je prie là, vous voyez? Et de confirmer la parole que j'ai annoncée, que j'ai chantée ce matin dans la vie de ses amis. Et de prouver toi-même qui tu es. Moi je ne peux pas le faire. Je te remercie. Transforme, retourne les situations, Seigneur. Montre qui tu es. Montre que tu es Dieu. Montre qu'il y a une autorité dans le sang précieux de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ. Montre qu'il y a plus que de la religion à trouver en Jésus-Christ. Mais qu'il y a le Dieu puissant, un sauveur, et un avenir et une espérance. Au nom de Jésus. Amen.